Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Cette semaine, des annonces d'appareils et d'objectifs, le zen de la photographie, contrôler son réflexe grâce à un routeur sans fil, un logiciel de gestion des fichiers et la critique des objectifs autonomes Sony QX10 et QX100. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 50! Eh oui, 50e épisode!
J'aurais pensé qu'on... 50?
Non, c'est...
Vraiment pas, là.
Alors,
dans le fond, c'est un merci à tout le monde qui nous écoute.
C'est grâce aux auditeurs, parce que s'il y avait 3 personnes qui nous écoutaient, ça serait peut-être un peu moins motivant. Mais...
oui,
il y en a moins 3, là, ils sont ici.
Mais
ouais,
bon.
Ouais. Ouais, non, vous deux, ça compte pas, vous réécoutez même pas les épisodes après.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
On a écouté.
Oui, ça m'arrive.
Ah, bon. Alors, au début, c'est pas facile de s'écouter parler, hein, mais
toujours
on s'habitue.
Ah, ouais.
Ça viendra.
Peut-être.
Moi, je suis habitué. J'en ai réécouté 49 à date.
Oui, j'avoue.
D'ailleurs, c'est quand... J'attends toujours le premier chèque.
Oui, c'était au 100e qu'on avait dit.
Ah, ouais, ouais. T'es sûr?
Ça me laisse un peu de temps.
Ah, okay.
Ben, tu sais, on peut prendre des appareils photo ou n'importe quelle autre chose aussi comme paiement. Il n'y a pas de problème, Stéphane, tu le sais. Hein?
C'est pas moi qui décide ces choses-là, malheureusement. Enfin... on va lancer un 12e défi photo. Cette fois-ci, ça va être un petit sujet. Donc, votre sujet doit être petit ou à l'état...
Puis trompez-vous pas, là, ça ne veut pas dire qu'il doit être absolument macro. On veut juste quelque chose de petit.
Exactement. Ça peut être un personnage Lego, ça peut être un bébé, quelque chose...
Un chaton.
Une pièce minuscule, une voiture minuscule, n'importe quoi de petit. Donc,
petit selon la norme.
Oui, c'est ça. Et nous avons un changement de dernière minute. Les gens d'Adobe offrent pour ce 12e défi photo et pour souligner le 50e épisode d'Objectif numérique, un prix qui consiste en l'ensemble de logiciels Photoshop Elements 12 et Premiere Elements 12, un prix d'une valeur de $150. Merci aux gens d'Adobe. Et j'aimerais vous mentionner qu'on vous fait un petit test. Et vous allez entendre des petits déclics à intervalles réguliers. On est en train de faire un petit time-lapse. On se photographie en train d'enregistrer l'émission. En fait, on teste le trigger trap, donc le petit gadget dont on vous a parlé à l'épisode numéro 2. On est en train de le tester. Donc, c'est François avec son téléphone et son appareil photo. Et puis, à la fin, ben on pourra, au moment de publier l'épisode, on pourra vous mettre le petit time-lapse dans les notes d'épisode. Alors voilà pour le petit déclic qui va se produire à intervalles réguliers. On s'excuse.
On ne sait pas trop si vous l'entendez, mais on sait
qu'il est là. Puis fiez-vous pas à l'inter-régulier non plus. Ça va peut-être changer de régularité, vous allez remarquer.
Oui, je sais pas pourquoi. Un peu de montage. Messieurs, nouvelle de dernière heure. Ben en fait, au moment d'enregistrer, Getty rend 35 millions d'images disponibles gratuitement pour un usage non commercial afin de combattre le vol de propriété intellectuelle.
C'est bien, ça.
OK. De leur banque d'images. Là, ça peut être un peu n'importe quoi, là.
Oui, mais là, ils viennent d'acheter aussi iStock Photo il y a quelques temps. Et donc là, il y a beaucoup de photographes qui sont pas très contents de cette nouvelle.
Écoute, 35 millions.
Ouais, oui. Si tu veux quelque chose, il y a des chances que tu le trouves là-dessus.
Oui,
là.
C'est ça. Mais je pense qu'ils vont rentabiliser le modèle de la même façon que YouTube. Tu vas pouvoir intégrer comme un embed, là, comme une vidéo YouTube. Et à ce moment-là, il va y avoir un lien où tu cliques puis tu te retrouves sur le site de Getty ou peu importe d'où l'image provient. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont rentabiliser la chose. Mais ça ne fait pas l'unanimité dans le monde des photographes.
Ça fait rarement l'unanimité, des choses comme ça.
Non, c'est ça. Mais de toute façon, c'est parce que les photographes essaient de vendre leurs photos pour gagner leur vie. Puis là, ben on se retrouve à 35 millions de nouvelles photos gratuites sur le web. Évidemment, usage non commercial, on le répète, mais c'est déjà ça. Hein? Les, les petits blogueurs qui vont pouvoir les piger là au lieu d'acheter des photos à 3-4 $ sur des sites de stock photo. Ça peut nuire quand même à ces photographes-là. Passons à d'autres nouvelles. Quelques annonces du côté de Panasonic. On en avait parlé rapidement, je pense, au dernier épisode. Petit appareil Panasonic 4K, ben, qui va tourner de la vidéo 4K.
Donc, c'est Panasonic Lumix DMC-GH4. Toujours des noms aussi faciles dans le cas de Panasonic. Mais non, c'est ça, c'est un appareil 4K. Un appareil photo, je trouve ça assez impressionnant. Mettons qu'il était tant. De plus en plus, là, je pense que ça va arriver fréquemment là, dans les prochains appareils. Donc, c'est ça. Vous pouvez avoir du vidéo 4K en 3840x2160 à 29,97 images à seconde ou du cinéma 4K qui a 4096x2160 à 24 images à la seconde.
OK.
En 1080p, par contre, il y a aussi d'autres avantages. On a maintenant des hauts bitrate de 200, 100 ou 50 mégabits, ce qui est assez bon aussi. Mm-hmm. Donc, c'est ça. On parle d'un appareil photo là, qui est quand même... c'est une bonne grosseur. Là. C'est un bon DSLR ou en tout cas, ça ne doit pas être bien loin de la grosseur. Il y a quelque chose qui intéresserait probablement beaucoup les photographes. La battery grip très intéressante où il y a beaucoup de connecteurs dessus probablement utilisés pour des photographes, vidéastes.
Je vois la photo que tu tiens sur ta tablette de l'appareil en question. Il y a des connecteurs audio XLR,
ouais, c'est
côté canal gauche, canal droit. Une prise aussi de courant qu'on peut brancher des accessoires. Il y a une entrée-sortie SDI. Ça, c'est pour la HD de haute qualité. C'est vraiment des outils professionnels, des connecteurs professionnels, ce que je vois ici. Ça prend la place du battery grip, justement. Donc, c'est super.
C'est brillant, l'idée, je trouve, franchement.
Côté ergonomie, je ne dirais pas que c'est qu'est-ce qu'il y a de plus cool en vidéo, mais pour un appareil DSLR, c'est bien pensé de mettre ça comme accessoire en dessous. Ces connecteurs-là, c'est bien.
Pour ce qui est des spécifications de la photographique, qu'on pourrait dire, c'est pas mal l'équivalent d'une GH3, là, ce qui est à dire un capteur 4 tiers de 16 mégapixels. C'est un très bon appareil, là, mais c'est pas rien d'exceptionnel ou rien de ça. Mais c'est quand même, je trouve que la combinaison des deux peut être quand même intéressante. Pour quelqu'un qui veut faire un peu de vidéo.
Mais est-ce qu'on parle d'un GH3 où ils ont seulement ajouté la vidéo 4K ou s'il y a quand même.
D'après ce que je lis, oui.
Ah, OK.
Ça a l'air d'être pas mal ça. Dans le fond, c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on parlait aussi là, avec Magic Lantern, là, on a même le Zebra puis le Focus Peaking. On a beaucoup, beaucoup d'options. Là. C'est vraiment énormément axé sur la vidéo, tellement que c'est à se demander si c'est pas plus quasiment une caméra vidéo que photo.
En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est fait pour attirer la clientèle des SLR, là, les enthousiastes qui veulent faire de la vidéo, le petit cinéma qui coûte pas cher, mais avec le 4K. Tu sais.
Mais réalisez-vous que, justement, quand les gens vont se mettre à tourner de la vidéo 4K et qu'ils vont transférer ça dans l'ordinateur, ils vont se rendre compte que c'est des fichiers assez lourds, merci à gérer.
À ce titre-là, il y a des salles de montage pas équipées encore là, pour le 4K à Montréal. Ils sont pas prêts pour... c'est trop... La charge de travail pour les processeurs est énorme et les disques durs, les stations.
De toute façon, il y a même pas de caméra. Il y a même pas de télévision vraiment.
Il y en a sur le marché.
De plus en plus, mais ce que je veux dire, c'est oui, il y en a sur le marché, mais combien de temps ça a pris pour les télévisions 3D à être populaires?
La 3D, ça ne sera même pas, mais la 4K, ça va devenir populaire.
D'après moi, on a encore pour 2-3 ans avant que ça pogne encore de la vitesse.
Oui, parce qu'il y a encore il y a beaucoup de téléviseurs qui sont plus de 4 000 $.
Non seulement ça, c'est que tu demanderas à la majorité du monde, puis je te défie de leur demander la différence entre l'un puis l'autre, puis ils ne seront pas capables de te la dire.
Ouais. Mais pour l'avoir vu, moi, je suis allé voir un téléviseur Sharp 4K l'automne dernier, et il y avait un autre type de téléviseur avec ce qu'il appelait du upscaling. Donc, ça donnait... Il multipliait les pixels, il faisait une espèce d'extrapolation, et déjà, le résultat était vraiment supérieur au 1080p. Il réduisait aussi l'effet de ghosting, là, l'effet fantôme appelle, dans les déplacements, puis tout était vraiment plus sharp, pour faire un jeu de mots.
Plus clair, plus
net, c'est ça, mieux défini. Et là, après, tu regardais un téléviseur 4K et ce téléviseur 1080p disons, supérieure, améliorée. Et il y avait quand même encore une différence. Fait que tu te dis, il y a vraiment place à l'amélioration encore, malgré le fait qu'on... Déjà, un Blu-ray en 1080p, c'est vraiment superbe.
Oui, ouais, c'est sûr.
Mais imagine, tu vas rendre les images encore plus réalistes, plus réelles. Le problème, par contre, on parlait de stockage, on parlait de processeur, mais il n'y a pas juste ça. C'est que, comme là, en ce moment, moi, j'ai une petite boîte multimédia pour diffuser mon contenu à partir de mon serveur réseau
Mais là,
jusqu'à mon téléviseur. Déjà, des fichiers 1080p, c'est lourd.
L'arrache.
Moi, je préfère le faire en 720p. Puis quand j'exporte de Lightroom mes vidéos, que je tourne en 1080p pour être sûr d'avoir la meilleure qualité. Mais quand je les exporte souvent en 720p pour les regarder sur mon téléviseur après, parce que l'image est quand même belle et c'est beaucoup moins lourd aussi là, à transférer d'un disque à l'autre ou à diffuser sur le.
Encore une fois, ça va dépendre. Tu sais, quand on va avoir des switches 10 gigs dans la maison et des choses comme ça, c'est là que les problèmes vont se régler aussi. Là,
ouais.
Il y a, ça va s'en venir, là, c'est pas...
Il y a aussi les encodeurs, les codecs de haute performance aussi pour le 4K qui s'en viennent, là, ils sont prêts. On connaît le H.264, il y a le, je pense que c'est le H.265, j'ai lu rapidement là-dessus, qui est la prochaine génération d'encodage pour le 4K, qui va être prêt pour ces gros fichiers-là, avec des super résultats. Je sais pas si vous avez vu de quoi encoder en H.264.
Oui, c'est surprenant
le résultat. Il faut être très critique pour aller voir... Bon, c'est sûr que quand on est cinéphile, on les voit tout de suite.
Ouais.
Mais si on a un petit film de soirée, puis c'est pas pour la qualité d'image qu'on l'écoute,
moi,
ça va super
bien. Moi, je m'en contente complètement. Là,
ben, c'est comme une image JPEG. Hein, t'sais?
Ouais.
On est capable de travailler avec, même si c'est pas un RAW.
Moi, regarde, puis je te dirais que ça joue beaucoup avec la grosseur de ton écran.
Aussi,
j'ai un 46 pouces à la maison, ma télévision, c'est en masse.
C'est
si tu commences à aller un petit peu plus gros que ça, c'est là que tu commences à voir les défauts.
Ben, il faut que tu te recules. Il y a un ratio à respecter.
Et pour les cousins, exact. 46 pouces, c'est 117 cm.
Oh oui, c'est vrai. C'est bien trop vrai.
Plus vite que l'éclair.
Ah, faites-vous-en pas. Nous, on est dans un mode hybride désagréable.
Oui, oui. Pris entre les États-Unis. Et... Ouais. Donc, ben, parfait. On va surveiller ça. Le Panasonic Lumix.
Si vous voulez savoir le prix, il n'est pas annoncé.
Ah oui, OK.
Panasonic a dit qu'il gardait encore l'information secrète pour un petit bout de temps.
Bon, mais je vais aller m'informer aux sources, voir si je suis capable de...
faire bouger ça un peu.
Oui, oui.
Je serais pas surpris, ça doit être 1500, 2000 minimum. Puis ça, on parle juste...
François, il dit plus que ça.
Ah oui, ah oui. C'est sûr. C'est sûr, on joue dans le domaine...
Ouais, mais fais attention, faut pas t'oublier que l'appareil photo est pas très bon. Là, ben, entre guillemets, là, je parle...
Pas
exceptionnel, c'est ça que je veux dire. Fait que il faut qu'il... Puis on parle pas, il y aura pas la battery grip avec ça, là. Là, ça va être un 200-300$ de plus, là.
Ouais.
Fait que juste l'appareil, moi, je serais pas surpris dans les environs de 2000. Pas plus que ça, parce que, je sais pas...
On y reviendra parce que moi, tu vois, je pense que ça va être plus.
Mm-hmm.
Peut-être.
Moi, je pense plus de 4 000-5 000$.
Et...
Il va falloir que... Ah oh, non, je pense
ça.
Non.
Ça m'étonnerait. On va y aller entre les deux. 2500 peut-être.
on fait-tu un pari là-dessus?
Non.
À suivre.
Peureux.
Bon, parfait. D'autres nouvelles, des annonces. Ben, y a deux annonces de nouveaux objectifs. Des objectifs Tamron. Et attachez-vous. Je vais vous énumérer tout ce qui est écrit sur l'objectif. On parle d'un 16 à 300 mm, f3.5 à 6.3, DI2VC PZD macro.
OK.
Wow.
C'est le modèle B016 pour les intimes. Et on va avoir un 28-300 f3.5 à 6.3 DI2VC PZD, mais qui n'est pas macro et qui n'est pas 2, là, donc qui n'est pas la deuxième version.
VC, ah, celui-là, c'est quoi? C'est Vibration Control, eux autres, fait que c'est leur...
Oui. Donc c'est stabilisé.
C'est ça.
PZD, par contre, je dois avouer que je n'ai aucune idée. Mais le modèle pour ce deuxième, là, le 28-300, c'est le modèle A010. Si jamais... En fait, il y avait eu une autre annonce de fait par Tamron cet automne ou en décembre, je pense. Tamron qui avait annoncé un 15-600 mm f5 à 6.3. Donc, c'est tout un téléphoto.
Ouais, et ça
y a
doit
même
être
une...
gros, ça.
Oui, ouais, c'est gros et il y a une poignée en dessous. Là, pour...
15 à 600.
15 à 600.
Écoute, tu pars de très large à très... Ouais.
Puis tu pars côté juste optique, de F5 à 6.3, mais évidemment,
ouais,
il va avoir de la distorsion
ben,
à un
oui, parce
bout
que
et
le
à l'autre.
18, le 18 à 300, il est déjà coté...
Ouais.
C'est pas super, super, là. C'est mais, commode, mais...
C'est ça, c'est pratique. Dans, ça peut, c'est polyvalent, donc ça peut servir à peu près toutes les situations, mais il y a un prix à payer pour ça, c'est qu'il va y avoir de la distorsion. Par contre, tu sais, dans Lightroom et compagnie, tu as des profils d'objectifs, puis tu peux corriger quand même un peu le, ouais. La distorsion, le vignettage. Ben, peut-être pas... Ben, le vignettage un peu aussi, évidemment, mais ça redresse les images, même juste avec mon Nexus, là, puis... Le Sony A7, il fait moins, mais le Nexus, il y a de la distorsion dans les objectifs un petit peu. Puis quand je les passe dans Lightroom, hop, l'image est rétablie automatiquement. C'est quand même incroyable.
Vive la post-production.
Oui, vive Lightroom. un outil indispensable. Donc, ben voilà. Donc, plusieurs objectifs Tamron, plusieurs télé-objectifs Tamron qui s'en viennent. Et ça va être intéressant pour ceux qui cherchent quelque chose de... C'est quand même gros, là, mais pour ceux qui veulent pas justement changer, ils veulent faire du paysage, puis en même temps, ils vont aller chercher l'oiseau tout de suite, faire de la photographie de nature, ça peut être intéressant.
Il y a un intérêt. Hein. Puis, il faut aussi penser que le prix sera probablement pas non plus gigantesque. On parlera pas d'un objectif à 4 000 $ probablement. Là.
Probablement pas, non, c'est ça. Donc,
moi, je serais surpris si ça dépasse plus que 2 000 $ 3 000 $.
Probable. Ça aussi, il faudra voir.
Parce que Tamron, en partant, c'est pas très cher. Puis de deux, ben, comme on dit, il y a beaucoup de compromis. Hein? Fait que.
Mais tu vois, moi, j'ai un 18-200 Tamron sur mon Nexus. Puis ça fait quand même un beau boulot. Là.
Oh oui, oui. Bon,
c'est pas le meilleur objectif au monde. Là, mais maintenant, au lieu d'avoir mon 16-50 plus un zoom, ben là, je mets celui-là, qui est un peu plus gros. Mais c'est quand même. Pas si mal, je pense,
non,
une douzaine de centimètres.
Montré,
c'est
pas
ça.
Si mal que ça, non.
Fait que, en tout cas, pour quelqu'un qui veut se promener avec un seul objectif sur son boîtier, voilà. Ça va faire le boulot. Surtout que, justement, il y a la stabilisation. C'est intéressant. Maintenant, François va nous amener au Japon.
Je suis tombé sur un super vidéo de la compagnie Sigma qui, au CES, si je ne me trompe pas, a fait une démo de leur fabrication des objectifs à la compagnie directement. C'est une vidéo très bien réalisée avec des images, on s'y attend très, très, très jolie. L'approche est toute en douceur, avec un rythme très lent qui laisse respirer les images. Okay. C'est tout doux, il n'y a rien qui est trop éclairé durement. C'est vraiment...
C'est très personnel, je le vois là, en ce moment, c'est je sais pas...
Oui, c'est très à hauteur d'homme.
Ouais.
On s'attarde beaucoup sur le travailleur qui travaille là avec son... Tout le côté méticuleux de la chose, c'est beaucoup fait avec ses mains. On se rend compte qu'il y a tellement des petites pièces à fabriquer. C'est vraiment fascinant. Moi, j'ai regardé cette vidéo-là au moins 3-4 fois juste parce que c'est bien réalisé. C'est juste une autre approche de montrer ça. C'est pas comme une émission qu'on explique comment tout est fait.
Ouais, c'est
là,
pas
un
documentaire. Là. C'est vraiment
non,
juste comme...
c'est très graphiquement... C'est graphiquement joli. Là. Okay. Puis beaucoup avec la lumière
c'est
ambiante aussi.
C'est très artistique. Là.
Oui, super.
C'est plus artistique que documentaire.
oui, puis en même temps, ben, on voit vraiment des pièces dans nos objectifs qu'on se doutait pas. Tu sais, il y a tellement des petites vis. On les voit là en surface, mais sous... À l'intérieur de l'objectif aussi, il y a vraiment des petites pièces. Regarde, justement, on le voit ici.
Dieu, ouais.
J'ai le vidéo qui joue là, pendant que je le décris. Puis il y a un gars qui travaille avec sa petite pince à cils là, pour plier un petit morceau de métal ou le placer.
Ah, mon Dieu, il y a beaucoup d'amour dans ces objectifs-là, finalement.
on se demande pas pourquoi c'est si cher.
Ouais. Oui, oui, c'est ça. Là, on voit Sigma, évidemment. C'est la même chose chez Canon, chez Nikon. C'est les mêmes procédés. Là. On se cache pas.
Mais c'est quand même bien que ça soit encore fait à la main parce que, comme l'industrie automobile, il y a c'est à peu près tout automatisé. Là.
On parle pas de la même grosseur.
Non,
non,
c'est sûr, mais... Oh,
la miniaturisation, ça là, ça disons...
Ah, ben on va avoir des nanorobots éventuellement, puis...
Possible.
Tout va être automatisé, mais d'ici là...
On a encore le temps de faire bien des choses à la main.
Oui. On voit aussi dans cette vidéo-là les uniformes, les gants, les lunettes que les employés doivent porter, parce que il y a des endroits où ça doit être fait sous...
il ne doit pas y avoir de poussière et compagnie.
Exactement. Là, quand on parle d'assemblage, par exemple, des des pièces. Ça doit être fait
tu
dans
veux
un
pas
endroit
un style ultra dans ton objectif. Mettons que.
Ça,
un cheveu frisé.
Non, non.
Donc, c'est vraiment très, très beau et fascinant. Vous pouvez voir dans les notes sur le site d'Objectif Numérique le lien vers ce super vidéo.
Bon, alors, on parle de cette vidéo artistique et reposante et on va parler maintenant du zen de la photographie.
Quelle belle jonction, quel beau lien, quel beau lien vraiment, là.
Je commence à prendre l'expérience un peu.
Ah, c'est-tu parce que tu as fait quelques épisodes?
Quelques-uns.
Donc, c'est ça, le zen de la photographie. C'est un petit article que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est trois petits trucs qui sont simples, mais qui sont très pertinents. Un de ceux-là qui disent, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, que c'est moins, c'est mieux. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que des fois, pour prendre une belle photo, plutôt que de rajouter, de mettre plus de sujets, c'est bien d'épurer. D'en mettre moins, de simplifier, de se rappeler c'est quoi réellement le sujet de ta photo.
Ben, j'ai un exemple très concret. Mm-hmm. Tout à l'heure, avant que tu arrives, François et moi, on prenait des photos avec un appareil dont on va faire le test éventuellement, le Fujifilm X-T1, et on se prenait des photos de portraits, des photos qu'on s'est dit peut-être ça va nous faire une photo de profil pour les réseaux sociaux, peu importe. Ouais. Et puis, la photo qui est à peu près le mieux ressortie, c'est quand le fond derrière François était complètement blanc, alors qu'on se disait au début, ben on va mettre de la couleur devant la bibliothèque, ça va être beau avec tout le flou à l'arrière, parce que on a un objectif qui ouvre à f1.2. Mm-hmm. Donc, on s'était dit, ben le bokeh, le flou en arrière va être super beau. Mais non, le meilleur résultat a été obtenu avec le fond blanc. Puis donc, minimaliste au maximum, c'était le meilleur résultat qu'on
a
obtenu.
C'est sûr que le sujet, il était vraiment...
Il y a ça aussi. Le photographe aussi était quand même pas...
Ouais. Tu sais, faut mettre les choses en perspective.
Ouais.
Mais en toute modestie.
Tout ça pour dire, tu sais, moins et mieux, ça peut être aussi par rapport à le matériel. On n'est pas toujours obligé d'avoir le matériel le plus incroyable, perfectionné. Ça, mais comme je dis, pensez à votre sujet et ce que vous voulez mettre en valeur.
Absolument.
C'est beau aussi prendre une photographie, mais il faut aussi, ça a l'air vraiment très zen et très ésotérique, mais il faut vivre dans sa photographie. Je vous explique ce qu'ils veulent dire, c'est que quand on décide de prendre un sujet, il faut connaître son sujet. C'est pas juste de dire, OK, je vais prendre telle place en photo, mais promenez-vous, regardez vraiment pour savoir si l'angle que vous avez décidé et qui avait l'air bon, c'est-tu vraiment le bon angle? Mm-hmm. Si on se déplace un peu vers la gauche, si on monte un petit peu, qu'on descend, etc. N'importe quoi, là. Est-ce qu'il y a des choses qu'en vous déplaçant, vous allez pouvoir, comme je disais, faire disparaître ou faire apparaître des choses plus intéressantes? Tu sais, respirez votre environ. C'est vraiment très zen, mais je trouve ça super intéressant.
De faire de la photographie dans un environnement qu'on connaît aussi, ça peut justement... Mm-hmm. Ben, en tout cas, disons, où on a vécu, ou un quartier qu'on connaît bien, qui pour nous va raconter une histoire, en quelque sorte, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Ou pour la personne, si quelqu'un veut se faire prendre en photo, dit ben, je vais aller où j'ai grandi dans mon quartier, le quartier de mon enfance et tout ça, ça peut être intéressant aussi parce que ça va évoquer plus de souvenirs encore pour la personne et son entourage.
Voilà.
Puis tu peux être en mesure de le capter, là,
oui,
ce moment-là.
Oui, absolument.
Tu sais, des fois, une personne va remettre... Dans son regard, va faire. Tu sais, tu vas avoir une espèce de réaction.
Tu vas avoir ça, une nostalgie. Ben,
c'était
ou
un peu ça, le troisième point, d'un certain sens. Non, il n'y a pas de problème, c'est bon que tu l'as apporté.
On l'a, Steph.
Vous l'avez bien. C'était un peu ça, le troisième point, dans le fond. C'est d'utiliser le tu sais, la source de l'énergie peut venir de n'importe où, de n'importe quel sujet de qu'on photographe. Mais comme vous dites, si vous le mettez votre sujet dans un lien qui a, dans une place qui a un lien important pour lui, ben ça va avoir un impact. Mm-hmm. Veux pas. L'émotion, le n'importe quoi le peut avoir beaucoup plus d'impact si votre sujet a une connexion, un vécu avec ce qu'il y a dans les environs.
Bon.
Fait que c'est beaucoup plus intéressant comme ça.
Wow.
Fait que, comme je vous dis, ça a l'air bien ésotérique, mais je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. C'est des petits points sur lesquels pas nécessairement qu'on focus normalement, mais qui
ça
peut
veut
avoir...
pas dire que ça va se passer, mais au moins tu te mets toutes les chances.
Oui, exact.
Puis t'es pas obligé de mettre les trois en application. Ça peut être un seul des trois, ça peut être les trois. Ça n'a pas d'importance. Essayez juste, comme je vous dis, de penser à ça fait, on en parle beaucoup de ça, mais ouais. Pensez à vos photographies si vous voulez faire quelque chose de durable puis qui a un impact.
Mais ne vous stressez pas si vous n'avez pas les trois éléments. Non. Restez zen.
Ah. Oui, voilà. Ah, c'est tu fin de toujours.
C'est magnifique. Je me peux plus.
Non.
Attends, oh. Je vais aller prendre un petit chai, je reviens.
Oui, oui, oui. Et c'était tout. C'est juste bon, ça. Parfait. Un petit article comme ça.
Moi, j'ai retombé dans les petites nouvelles. Il y a un objectif Sony qui a été annoncé. Un 1805 F4 PZGOSS. Et on est dans les noms d'objectifs.
Ah, ça commence à être débile. Ouais, ouais, vraiment,
parce que
là.
OSS, évidemment, c'est Optical Stabilization.
Ben, évidemment.
Stabilisation optique.
On le savait tous. Ils ont donc, chacun leur... Je trouve ça un petit peu ridicule. Ben, je sais que c'est des questions de brevet, tout ça, mais qui ont chacun leur terme
ben
différent.
Oui, il devrait
Vibration
avoir...
control, image stabilization. C'est toute la même affaire, Boswell. Là,
ben oui.
En tout cas, petite donc, montée de lait.
Non, c'est correct. D'ailleurs, éventuellement, je vais publier une espèce de glossaire, de dictionnaire pour justement élucider tous ces mystères... sur les appellations des objectifs. Là. Je l'avais fait un peu sur le blog de Best Buy. J'avais fait une espèce de truc abrégé là, pour les abréviations principales, comme OSS, comme VC. Donc, je les groupais justement pour dire ben, ça signifie toute la même chose. C'est selon le fabricant, selon la marque. Donc, c'est ça. Ce nouvel objectif-là va être utilisé. C'est un e-mount pour les capteurs APS-C, les capteurs Rogner. Donc, on parle des appareils NEX ou les A5000, A6000. L'A6000 qui va sortir dans quelques semaines, au mois d'avril. Et on en dit du bien de cet objectif-là pour la vidéo. Mais apparemment qu'il y aurait de la distorsion au bout du zoom quand on arrive au maximum là, à 105 mm. Par contre, ben, c'est ça, c'est un objectif polyvalent. Et j'ai pas vu de prix encore d'annoncé, mais on présume déjà s'il y a de la distorsion.
On présume qu'on va l'avoir pour le tester.
Ah ça oui, probablement. ça m'intéresse, c'est sûr.
On ne sait pas pourquoi.
Je vais essayer d'avoir peut-être un A5000 ou A6000. Ben, de préférence un 6000, bien sûr, mais
préférence.
Non, mais des fois, on n'a pas toujours le choix, malheureusement, non. Parce que la demande est forte.
C'est
les
normal.
Journalistes, il y a quand même
on
des...
Je ne trouve déjà relativement ces chansons. On en a eu beaucoup de très bons appareils rapidement. Juste le A7, tu l'as eu rapidement.
Oui, puis l'objectif 55 mm, je l'avais eu très vite aussi. La minute où il est sorti, où je l'ai eu peut-être 2 jours avant sa sortie officielle sur le marché. Puis ça dépend. Des fois, c'est une question de timing. On fait une demande de prêt de matériel et on l'a tout de suite. Et il y a des fois comme il y a le Pentax K3 là, qu'on devrait avoir un test d'ici 2 épisodes. Ça a pris à peu près 4 mois avant de l'avoir.
Ah ouais, c'est ça.
Donc, mais pourtant, tu te dis, ben Pentax, on en entend moins parler
mais
l'appareil était toujours demandé à gauche,
ça,
à droite.
Regarde, le Fuji, l'objectif 56 mm, c'est parce qu'il vient de sortir ou il est à veille de sortir.
Oui,
là,
exactement.
Puis on l'a déjà dans les mains.
Oui. Puis on l'a reçu après l'appareil, le X-T1, mais... On l'a reçu 3-4 jours après, je pense. Mais quand même, les gens de Fuji ont été super sympathiques nous envoyer ça. Alors, il y a plein de tests intéressants qui s'en viennent dans les prochains épisodes. Et parlant de Sony vend son quartier général original du Japon.
Ah bon?
Dans sa phase de restructuration, il y a eu beaucoup de mises à pied.
De coupeurs,
ils ont vendu ils ont vendu la division d'ordinateurs, je pense, à Lenovo, ça se peut-tu?
Il me semble que j'ai cru voir, je pense, quelque chose
puis,
du genre.
Les téléviseurs Sony aussi, c'est terminé. Par contre, au moins, on n'a rien à craindre du côté de la photo.
Les téléviseurs Sony, c'est terminé?
Oui.
Ah,
ouais.
Ça, je ne l'ai pas vu
passer. Ou ça sera sous peu, mais oui.
Ah, ouais.
Ordinateur, téléviseur, c'est terminé. Donc, mais au moins, tout ce qui est Sony Alpha ou E-Mount, comme les NEX, les A5000, 6000...
Ou console de jeu, là. Considérant qu'ils viennent juste de sortir la PS4, là, j'espère qu'ils n'ont
pas
pour un bout. Là.
Mais ça aussi, ça doit être relativement rentable avec les ventes de jeux vidéo et compagnie. Donc, et pourtant, je ne sais pas jusqu'à quel point ils veulent restructurer l'entreprise, mais ils ont vendu ça pour à peu près 146 millions de dollars américains, ce qui n'est pas énorme. Quand tu parles de mettre
énorme,
5000
ouais.
personnes à pied, je ne sais pas. Donc, En tout cas, peut-être qu'au total, avec toutes ces restructurations-là, les coupures et compagnie, ça fait une différence. Là, mais si on le prend juste comme ça, on se dit, ben, pour Sony, qui est quand même une énorme compagnie, ouais. 146 millions, est-ce que c'est ça qui fait la différence dans l'histoire?
C'est sûr qu'eux ont eu des difficultés là, énormément. Là. On est loin des années Walkman de Sony qui était... C'est ça qu'ils ont...
Mais là, ils sont dans la pente ascendante, là, ouais. vraiment, avec justement les appareils photos.
Les appareils photos, ça a l'air d'aller très bien de ce côté-là.
Puis là, à date, là, il y a une autre personne à qui j'ai parlé qui vient de recevoir un A7R en test, qui est Alexandre Vallière, qui est déjà venu à l'épisode de 7, je pense, en tout cas, de mémoire, et qu'on réinvitera éventuellement. Mais il vient d'avoir l'A7R avec quelques objectifs, et puis il est tout simplement époustouflé, donc Sony est sur la bonne voie.
C'est sûr que tu es vendu.
Je suis vendu, mais en fait, pour avoir investi dans un nouvel équipement, il fallait qu'il y ait une bonne raison quand même.
C'est une des raisons pourquoi je veux pas prendre ton appareil photo.
C'est vrai que... Non, mais c'est vrai. Ben, moi, c'est ce qui est arrivé avec le Nexus. J'étais tombé en amour quand ils me l'ont prêté. Mm-hmm. Et là, ça m'a coûté un appareil photo et j'étais allé l'acheter. Puis là, certes, en fait, j'avais essayé l'A7R chez Lozo à Montréal, puis ben, j'ai commandé l'A7. Parce que je me disais, l'A7R, ben, il n'y a pas de filtre passe-bas. Il y avait quelques petites différences qui faisaient que moi, avec la photographie, mettons, d'enfant.
La photographie
et tout ça,
que toi, tu faisais, ça allait moins.
C'est ça. Donc, puis ça coûtait moins cher aussi un A7 qu'un A7R. On parle de quoi? 600$ de différence?
C'est une bonne différence.
Oui, donc.
C'est un objectif quasiment.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça a joué dans la balance, mais finalement, j'ai pas pu résister quand même. Ceci dit, on va passer à un autre sujet. Tiens, c'est François qui va nous parler d'un bidouillage intéressant, peut-être à essayer, ceux qui sont plus bidouilleurs parmi vous.
Oui, on n'a pas parlé dernièrement de bidouillage sur des trucs. Je suis tombé sur un site qui... C'est pas pour tout le monde, mais si vous avez un projet qui vous demande de contrôler son appareil à distance, l'équipement peut coûter cher. Là, on entend par là un DSLR avec une quelconque façon de le contrôler à distance.
On avait déjà testé un bidule là, qu'on mettait sur le sabot de flash puis qui valait comme 300$ déjà partant. Là.
Exactement. Donc, si vous avez un DSLR Canon et une tablette ou un téléphone Android, avec le TP-Link MR3040, ça c'est un routeur sans fil, portatif et qui fonctionne à batterie et qui coûte seulement 30$. On obtient vraiment beaucoup pour son argent. Il suffit de modifier le firmware du routeur. Le firmware, comment qu'on appellerait ça?
Le micro-logiciel.
Le micro-logiciel. Donc, on modifie le micro-logiciel du routeur. On installe une application dans l'article que j'ai lu qui est DSLR Controller. Il y en a plusieurs, les applications qui font ça. Okay. Grâce à ça, on peut visionner à distance les photos qu'on prend, les vidéos. On peut changer les paramètres de l'appareil. Puis là, on parle de tous les paramètres de l'appareil. Okay. Ça contrôle vraiment tout. C'est bien pratique dans des situations qu'on doit installer l'appareil à distance. Par exemple, un shooting en studio, on décide d'avoir une prise de vue au-dessus.
Mm-hmm.
Disons qu'on a un concept d'un objectif qui est au-dessus d'une table ou quelque chose pour avoir des top shots, là, t'sais. Quelque chose de vraiment super, avec le contrôle à distance, on n'est pas obligé de se rendre à l'appareil, d'aller voir est-ce que la photo est bonne, tout ça. Ouais. Évidemment,
c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais qui fonctionne pas toujours très bien avec bien des appareils que j'ai essayé.
Dans le cas de ces appareils-là, que je vois le Mix Canon Android, j'ai vu la vidéo explicative, ça a l'air à très bien fonctionner dans ce cas-là. Il y a évidemment, des trucs, j'imagine, qui ne sont pas à point. Dans le cas de celui-là, ça a de l'air à fonctionner
super
bien. Pour
30$, là, on ne parle pas de la même chose. Ben, là, on
s'engage
pas. On est prêt à en laisser aller dans ce temps-là.
Exactement. Oui, on ne s'engage pas dans quelque chose de très, très, très coûteux. L'application, je pense, coûte 7 ou 8$, ce qui n'est pas non plus énorme. Puis, on a accès à des time-lapse, à se faire ses propres selfies, même si on est tout seul. Là. Un selfie.
C'est tellement dur faire ça. J'en ai été pris pour en faire. Là. C'est vraiment pas évident, là, sérieusement.
Ben, parce que sinon, l'idéal pour faire un selfie de la meilleure façon, c'est d'avoir un trépied et une télécommande. Là,
ouais.
Mais là, c'est encore
mieux. Tu as ta tablette dans les mains. Tu le vois, le résultat, instantanément. Tu te déplaces un petit peu à gauche.
Mais c'est parce que le problème que tu as, c'est que oui, tu peux avoir une manette, mais tu vois pas. le résultat.
Oui, mais...
Moi, j'étais connecté mon ordinateur parce qu'avec Canon, il y a un logiciel EOS Utility, puis tu vois l'image que tu as directement. Mm-hmm. Sauf que pour avoir une bonne vision, ben il faut que tu restes proche.
Ouais.
Restant proche, ben là, t'es limité. Puis là, ben, tu l'as vu, ma photo était distorsionnée justement parce que mon objectif était trop proche de moi.
Mm.
Puis avec ça, ben là, t'as plus ce problème-là. Tu vois l'image sur ta tablette.
Tu vois le résultat final. Parce que j'étais pour dire, sinon, normalement, comme mettons avec mon 60D, j'ai l'écran qui est pivotant. Puis je peux le mettre de l'autre côté pour me voir en même temps.
C'est pas gros. Je veux dire, si t'as besoin de reculer un peu, c'est pas énorme. Là.
Non, c'est clair. Parce que c'est ça. Idéalement, pour faire une photo de portrait, ça prend un objectif.
C'est ça. Puis moi, j'avais testé une coupe de Panasonic. Puis le Panasonic a justement des fonctions très puissantes avec leur application où ce que tu peux faire des selfies comme ça. Puis tu peux acheter tous les paramètres de l'appareil.
Ouais,
ça, c'est génial.
Ah, c'est bien.
Ça, je trouvais ça très le fun.
Bon, mais pour les appareils qui n'ont pas ça, justement.
Voilà.
Donc, avec cette combinaison que je vous parle, c'est possible d'avoir accès à tous les paramètres. Là, je vous entends, il y a des gens qui disent « Oh, OK, Android, DSLR, Canon. » Mais là, on parle pas de Nikon, on parle pas d'iPad. Ben, ça existe. Sur, oui.
J'allais te poser la question, est-ce qu'il y a juste Canon? Ou
non, il n'y a pas juste Canon. Ça, c'était la version 30$ ou à peu près, okay. Là, entre 30 et 40$. Vous avez accès à toute cette technologie-là avec votre iPad et votre Nikon si vous le voulez. Là. Je vais vous donner un petit lien. Là. En fait, c'est sur le site. C'est le site de Lifehacker qui est super cool.
Oui, il y a beaucoup de stock là-dessus. Oui.
Il y a beaucoup, beaucoup d'affaires là-dessus intéressantes. Puis, il y a un article sur qu'est-ce qui existe pour quel appareil. C'est vraiment super bien.
Excellent.
Et puis, vous allez pouvoir avoir accès à une combinaison intéressante. C'est sûr que c'est Canon, Nikon, généralement, là, les trucs.
Ben, regarde, si je pense que c'est 80 à 90% du marché. Fait qu'à un moment donné, il faut être logique aussi. Là,
ben oui.
C'est vers ça que le monde va faire les applications. Là.
Exactement. Mm. Eh oui, moi, j'ai justement un TP-Link, un petit routeur, mais... C'est le MR3020, donc il n'est pas à pile, à batterie.
Ah, c'est la seule chose qui le différencie.
C'est la seule chose, je pense. Donc, ben, il faut qu'il soit branché dans le mur.
Peut-être que ça marche pareil, c'est juste qu'il est moins commode parce qu'il faut...
Il doit être branché.
Il doit être branché, mais normalement, c'est à peu près le même modèle.
Il faudrait trouver le bon micro-logiciel parce que quand je parlais tantôt de changer le micro-logiciel, c'est vraiment pour lui donner une nouvelle fonction.
Oui. S'il y en a un, regarde, on pourra s'amuser, on se fera ça à un moment donné, un petit bidouillage.
Parce qu'on s'entend-tu que de toute façon, je veux dire, la majorité du temps, quand tu veux faire des photos de toi-même, c'est rare que tu vas aller dans le champ pour faire... Je dis pas que c'est impossible, ça pourrait être le fun.
Oui, un selfie en nature.
Mais là, c'est parce que, tu sais, je dirais que ta tablette, qui a utilisé une tablette dehors, sait que c'est pas particulièrement commun.
Mais attends, il y a d'autres utilités à ça, là. Si on se met en mode vidéo, par exemple, tu opères une Steadicam, tu sais, une caméra, puis tu décides d'avoir ta tablette comme moniteur. Tu sais, obligé d'avoir l'œil collé, rien. Mieux que ça, là, avec l'écran tactile, tu vas aller faire ta mise au point là, en cliquant sur ta tablette. Il y a vraiment des fonctions à développer avec ça. C'est carrément un écran à distance de son appareil.
C'est tentant, tabarnouche, cette affaire-là.
C'est pas cher.
Ben, on pourrait commencer par voir celui-là, je l'ai déjà.
Ouais, ouais.
On va essayer de voir s'il y a un micro logiciel, puis je l'installerai, voir si ça fonctionne. Puis si oui, ben si ça vous tente de vous commander un 30-40, vous le ferez. Au moins, ça n'aura rien coûté pour le moment, je l'ai déjà.
C'est bon.
L'avais acheté pour des fois un déplacement dans un hôtel et compagnie, là, ça peut être pratique. Donc voilà. Christian, toi, de ton côté, au dernier épisode, en fait, on avait parlé de gestion des fichiers, justement, parce que j'avais donné le truc, soit au dernier ou au 48, je ne sais plus, mais pour classer ces fichiers en ordre de date et compagnie, ben une fois que, si on a commencé à le faire, ça va bien, mais si on ne l'a jamais fait depuis 5 ans, ben ça peut être pas mal plus compliqué de tout renommer. Là,
oui,
donc,
définitivement. Ben, il y a un de nos auditeurs qui nous a envoyé justement un lien. Ben, Alexandre Vallière, encore une fois, nous a envoyé un lien, une application de scriptage qui est utilisée en macOS qui s'appelle Automaton. Dans le fond, c'est une façon qu'on peut faire modifier des fichiers, faire des choses automatiques. Puis lui, il en a fait un pour modifier ses propres fichiers à lui, qui nous a offert gracieusement. Fait qu'on pourra le partager également avec nos utilisateurs. Nos auditeurs.
Merci, Alex.
Oui, merci. Fait que ça aurait pu répondre à la question à ce moment-là, mais j'ai quand même cherché, puis je vous avouerai que la majorité des logiciels qui avaient l'air les plus intéressants, malheureusement, c'était comme 100-200 $. Ça commence à être un peu cher pour un logiciel qui fait juste ça. C'est surtout des affaires, comment je pourrais dire, pour les entreprises ou des choses comme ça. Okay. Fait que là, j'étais un petit peu découragé, puis finalement, ben, par pure chance, aujourd'hui, j'en ai trouvé deux autres que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais que je me propose de faire pour un des prochains épisodes. Puis, c'est drôle que François le mentionne, c'était sur le site Lifehacker, encore une fois. Bon. Donc, les deux logiciels qu'eux parlaient, c'est Belvedere, qui est un logiciel de Lifehacker.
Ah, OK.
Que je connaissais pas.
Moi non plus.
Puis, comme je vous dis, j'ai cherché pas mal, puis je suis jamais tombé sur cet article-là, puis par chance, je suis tombé dessus là, aujourd'hui. Puis, ce qui est intéressant de Belvedere, c'est qu'il est open source, donc complètement gratuit. Okay. Ça, c'est la version pour Windows. Puis, il y a également Hazel, qui est un autre logiciel du même genre, là, qui ferait la même chose sur Mac. Sauf que Hazel est 22$, mais on peut quand même l'essayer pendant 14 jours.
Okay.
C'est quand même pas si mal. Fait que moi, je vous propose, là, dans un des prochains épisodes, là, je vais essayer les deux, puis je vous dirai un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Parce que vraiment, j'en ai essayé quelques-uns, mais je peux pas pour ça, je peux pas recommander un logiciel à 200$. Là.
Non,
c'est juste ça. Pour classer des photos ou des choses comme ça, je pense pas que c'est vraiment pertinent. Là.
Mm-hmm.
Fait que je vous redonnerai d'autres nouvelles par rapport à ces deux-là un petit peu plus tard.
Parfait, merci. Et on va conclure cet épisode avec la critique des objectifs autonomes QX10 et QX100, parce que j'ai eu la chance d'avoir les deux modèles entre les mains. Donc, ça, c'est des objectifs, ben ça le dit, autonomes, donc qui peuvent fonctionner sans être branchés à un appareil photo. Par contre, ben, c'est fait pour fonctionner en tandem, si on veut, avec un téléphone, un smartphone ou une tablette.
Ouais.
Ça fonctionne autant avec Android que iOS. Puis même, il y a une espèce d'attache qu'on peut agrandir et fixer à notre téléphone pour le tenir comme un véritable appareil photo. C'est super intéressant.
Et j'imagine la tâche, on peut jouer avec, là, dépendant de la
grosseur. Oui, ça peut. Oui, oui, même si on a un Galaxy Note 3 là,
à 8 de, pouces quasiment.
Non,
là,
presque 6 pouces. Oui, ça fonctionne, je crois. Moi, je l'ai testé avec mon iPhone, là, mais ça fonctionnerait avec un Galaxy S3, S4 et compagnie.
Oui, d'ailleurs, quand tu l'as reçu, avant de faire ton test, on l'a essayé avec mon Galaxy S3. Ça fonctionnait très bien.
Oh, oui, absolument.
D'ailleurs, tu me fais penser, il faudrait que je désinstalle l'application.
Ah, c'est
ça m'arrive souvent, moi aussi, ça.
C'est l'application Sony Play Memories.
Oui.
Et elle sert aussi si jamais un jour tu t'achètes un A7 ou A7R.
Ah! Ou je pourrais débarquer chez toi et hacker ton objectif.
Absolument. Mais non, malheureusement, j'ai dû retourner les deux objectifs. Mais ce que ça a de particulier, c'est que les objectifs ont une pile à l'intérieur, évidemment, pour fonctionner. Ils ont un lecteur de carte micro SD, mais en réalité, ils n'ont pas d'écran. Donc, on ne voit pas les photos qu'on prend, on ne voit pas le cadrage. Il faut passer par l'application qui devient une espèce de viewfinder ou de live view, là, si on veut. Donc, c'est pour ça, une fois que c'est branché ou c'est accroché après le smartphone, bien ça devient l'écran de notre téléphone devient l'écran comme de l'appareil photo. Et le premier, le QX10, c'est un capteur de 18,2 mégapixels qui est de taille similaire au capteur d'un appareil compact. Ce n'est pas un très gros capteur, mais l'avantage de ça, c'est qu'il possède un zoom optique de 10x. Donc, on a une focale équivalente à 25 à 250 mm en 35 mm. Donc, ça donne un objectif quand même polyvalent.
Chose très respectable.
Chose que les téléphones et les tablettes n'ont pas. Donc, il n'y a pas encore de zoom physique, optique dans les téléphones. À part le petit Android Galaxy S qu'on avait essayé. Là.
Oui, le Galaxy Camera.
Galaxy Camera. Donc, c'est à peu près le seul appareil là, qui ressemblait à un téléphone qui avait un zoom optique. Mais évidemment, ça se tenait...
Oui, c'est ça. C'est difficilement un appareil comme photo. Un téléphone, ouais.
C'est ça. Bon, le QX10, c'est quand même bien pour ceux qui ont, qui n'auraient pas un super bon appareil photo dans leur téléphone ou qui souhaitent zoomer souvent puis qui n'ont pas la chance de le faire. Ça peut être un bon compromis. Par contre, si vous avez déjà un appareil avec un super bon, un bon appareil photo, disons, je pense au Nokia Lumia 1020, c'est pas le genre d'objectif que vous allez brancher après votre smartphone.
Il n'y a pas
smartphone.
De plus-value de, à le faire vraiment.
À part le zoom,
ben, il y a quand même aussi la profondeur de champ. Peut-être qu'on pourrait avoir un peu moins avec ce genre d'objectif-là.
La différence n'est pas énorme. J'ai fait quelques tests, mais pas avec le QX10.
OK.
Le QX10, on parle, je pense, de autour de 250$. Donc, c'est quand même abordable. C'est pas très cher. Et justement, ben, si vous trouvez que l'appareil photo de votre téléphone Android ou de votre iPhone, c'est peut-être un iPhone 3GS que vous avez encore, ou peu importe, peut-être que les photos sont pas à la hauteur de ce que vous voudriez, puis vous voulez pas nécessairement toujours avoir un appareil photo avec vous, puis vous voulez partager vos photos, donc ça, ça a un côté pratique parce que dès que vous prenez la photo, elle est transférée dans votre smartphone et là, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Donc,
c'est quand même pas très gros que j'imagine, ça se glisse relativement assez bien dans une poche.
Oui, c'est l'équivalent de, mettons, un objectif 50 mm Canon, là, pour disons pour le Canon 7D.
Oh, ouais.
Bon, chez Nikon, je pense que c'est à peu près la même taille. C'est peut-être un pouce et peut-être 3 cm et demi, 4 cm d'épaisseur, pas plus que ça.
Pas si mal.
Donc, c'est quand même bien. Ça se transporte bien. Puis, c'est juste qu'il ne faut pas oublier de recharger la pile avant de sortir.
Et comment qu'elle se recharge, d'ailleurs? C'est-tu par USB,
j'imagine? Un petit câble USB, oui.
OK. Ouais, ça peut être, ouais.
Et du côté du QX100, celui-là est équipé d'un capteur Exmor de 1 pouce, donc à 20,2 mégapixels. Et c'est un objectif Carl Zeiss muni d'un zoom 3,5x. On parle en 35 mm là, de 28 à 100 mm, ce qui est quand même intéressant comme plage focale. Celui-là, il possède un mode priorité à l'ouverture, donc le mode A, pour ceux qui veulent justement changer l'ouverture pour faire entrer plus ou moins de lumière pour jouer avec la profondeur de champ, chose que le QX10 ne fait pas. On a aussi plus de menus, justement, pour aller jouer dans les paramètres. On peut jouer avec régler la balance des blancs sur ce capteur-là, sur le QX100. Et celui-là, ben, on parle d'environ 500 à 550 $. C'est quand même plus cher, là. C'est le prix d'un appareil photo.
Ouais, il faut vouloir un peu plus, là.
Mais
toujours la même grosseur?
Il est un peu plus long, lui. On parle d'à peu près 6 cm. Puis, si on zoome, ben, ça peut monter à 8 ou 9, mais c'est comme un objectif. Si tu zoomes, ben, l'objectif va s'allonger. Là.
Ouais, mais c'est plus, je me vois mal traîner ça dans mes poches. C'est,
ben,
plus
c'est comme
ça.
Si tu traînais juste un objectif dans ta poche au lieu de traîner l'appareil photo au complet.
Ouais.
Donc, ça quand même. Si tu pars en voyage, en trekking, tu vas faire de la marche en forêt, en montagne, puis ton sac à dos est déjà pas mal plein, ben ça peut être intéressant d'avoir juste un objectif plutôt qu'un appareil complet.
Moi, je vois beaucoup d'avantages à ce genre de configuration-là. Par exemple, tu déposes ton objectif dans un petit coin.
C'est un peu ce que je pensais.
Tu as le contrôle sur ton appareil.
Aussi.
Un peu comme je parlais tantôt.
Tu peux le mettre sur une branche, ben, en autre agression. Oui. L'entendons-nous, là, mais puis tu prends ta photo à distance.
Oui, tu changes ta focale, tu fais ta mise au point.
Y a-tu moyen de l'accrocher sur un trépied?
Oui, il y a une vis pour les trépieds en plus.
Parce que là, ça peut devenir intéressant avec les... C'est quoi, ces Gorilla Pods, qui est comme les espèces de petites choses là, qui te permettent d'agripper
Oui, absolument.
Faire,
quand je l'ai essayé la première fois, ma fille était assise à l'ordinateur et puis je lui montrais, je l'avais posé à côté d'elle, puis je suis allé de l'autre côté, disons, je l'ai mis à sa gauche, puis là, je suis allé à sa droite, puis je lui ai montré l'image dans mon téléphone, puis là, ben, je bougeais le téléphone, puis son image bougeait pas parce que l'objectif était sur la table à côté d'elle. Mais là, elle se voyait de l'angle contraire à l'image que je lui montrais.
Elle essaie de comprendre.
Oui, c'est
ça. J'imagine que tu peux choisir où ce que tu fais le focus avec ça.
Oui, tu appuies dans l'écran, puis ça fait la même chose.
C'est quand même pas
donc,
mal.
Oui, puis tu as des modes automatiques, intelligents, supérieurs et compagnie. Donc, tu peux vraiment...
Peux te faire des beaux selfies avec ça aussi.
Absolument. Tu l'installes sur une tablette de bibliothèque puis, ou sur un trépied carrément.
Tu peux composer une image. Puis, OK, parfait. Je me vois dans ce coin de l'image-là. Je vais aller me déplacer.
Puis là, tu appuies sur ton écran de smartphone et voilà, l'image est prise. Tu vois, on parle de photos à distance. Ben, c'est justement ce genre de gadget-là.
Oui.
Bon, j'ai fait des comparatifs aussi. Toujours sur... Ah non, cette fois-ci, c'était sur Canoë, canoë.ca. J'avais fait un test comparatif avec des photos prises avec mon iPhone 4S, le QX10, le QX100. Et puis, on voyait la différence, disons, dans la richesse des couleurs, dans la profondeur de champ, ces choses-là. Puis, c'est sûr que avec le QX100, on avait un bien meilleur effet de flou là, en arrière-plan. Mm-hmm. Ben, c'était pas hyper prononcé là, quand non, même, parce que le capteur est 1 pouce, là, c'est pas un capteur APS-C. Mais oui, il y avait une différence. Disons, j'avais une chaise qui était à peu près à moins d'un mètre, mais quand même, déjà la chaise était floue avec le QX100 par rapport au sujet photographié. Donc, c'est ça. Ça peut servir à un paquet de trucs. Puis, moi, j'ai bien aimé le QX100 justement parce qu'il me donnait l'impression d'avoir un peu plus de contrôle sur les photos que je prenais. Déjà, de pouvoir régler la balance des blancs, ça évite d'avoir à retravailler les photos par la suite quand tu peux la régler avant.
Oui.
Y a un paquet de petits détails comme ça qui sont intéressants. Donc, à considérer si jamais vous cherchez un espèce de petit gadget pour un événement spécial.
Puis pour ce qui en est de la durée de la pile, c'est pas si mal? Ou parce que des fois, quand c'est par USB, là, c'est moyen un peu.
Ben non, en fait, par USB, c'est juste que c'est plus long à charger. Mais,
ben c'est ça, ben, c'est un peu ça. Ça peut être très long à charger. Puis des fois, j'ai remarqué que la capacité, ça dépend des objectifs. Ben pas des objectifs, mais des gadgets, entre guillemets. Là, ouais. C'est, en
tout cas, non, ben ça, écoute, je pense que j'ai eu à le charger une fois. Je l'ai eu peut-être une semaine. Ouais, puis j'ai eu à le charger une fois vers la fin parce que bon, je l'avais laissé allumer longtemps pour faire mes tests et compagnie. Mais comme il n'y a pas d'affichage, c'est surtout quand ça communique par Wi-Fi avec le téléphone, mais tu n'as pas d'affichage, tu n'as pas d'écran, donc la batterie se draine moins vite. Là,
que... C'est parce que le Wi-Fi aussi, ça peut quand même aussi drainer pas mal.
C'est ça. Par contre, ben quand tu t'en sers pas, après un certain temps, il se met en veille et compagnie. Donc, t'es pas constamment en train de transférer des données Wi-Fi non plus. Là.
Puis, autre question niaiseuse comme ça, c'est un vrai Wi-Fi, mais est-ce que la distance est quand même assez bonne? T'as-tu essayé de le mettre beaucoup plus loin pour une photo?
Ben, en fait, oui, c'est que t'as quand même une bonne portée. Je me souviens pas exactement de la portée, dirais plus de 10 mètres. Là.
Bon, c'est parfait. C'est une bonne
sauf
idée.
Que t'as même le jumelage par NFC, parce que Sony est très fort sur le jumelage par NFC. Donc, si tu as un appareil Android, parce qu'iPhone, évidemment, n'a pas de NFC, mais si tu as un appareil Android, tu les cognes ensemble et voilà, c'est jumelé. Fait que,
ça, on aime
c'est
ça.
Très pratique.
Ça, on aime beaucoup ça.
Mm-hmm. Alors voilà, ça conclut ce 50e épisode. Et est-ce qu'on va se rendre à 100?
Probablement. On le souhaite.
Oui, sans aucun problème.
Dites-nous-le quand vous voulez qu'on se rende à 100, on va aimer ça. On va
continuer. Ben, merci beaucoup, François.
Ça fait un plaisir, Stéphane.
Merci, Christian.
Toujours un plaisir.
Et chers auditeurs, merci infiniment de votre fidélité, de votre présence et de votre écoute.
Et de nous relancer toujours avec des questions, des choses, des commentaires. On apprécie ça. Faites-le plus souvent. Sérieusement, là, on a eu beaucoup de commentaires qui nous ont partis sur des sujets, des choses. Fait que gênez-vous pas, c'est intéressant. On adore ça.
Des questions, suggestions. D'ailleurs, dans les prochains épisodes, on aura des réponses à certaines questions qu'on a reçues. Malheureusement, il y a eu une période où on avait moins de questions. C'est que j'ai malheureusement effacé mon répertoire de questions par erreur parce que moi, j'ai la fâcheuse habitude d'appuyer majuscule, delete. Et plus jamais. Là, maintenant, je le fais plus. Mais je faisais toujours ça. Et puis,
et
à un moment donné,
j'étais...
Tu t'es trompé
de répertoire?
Non, mais au lieu d'être sur un message, j'étais sur le répertoire.
Ouh.
Et là, ben, le répertoire est parti. Et là, ben,
pour ceux qui
ne
savent pas,
ça,
majuscule effacer, ça l'efface complètement.
Ne
pas
faites
de poubelle.
Pas ça, c'est comme croiser les effluves.
Oui, c'est ça. On passe pas par la question « Êtes-vous sûr? » Non.
c'est non seulement « Êtes-vous sûr? » mais ça disparaît à jamais.
C'est ça. Donc, voilà. Si vous voulez nous envoyer des questions, commentaires, suggestions, vous le faites à podcast@objectifnumerique.com. N'oubliez pas de participer au 12e défi photo pour courir la chance de remporter l'ensemble logiciel Adobe comprenant Photoshop Elements et Premiere Elements 12. Et au prochain épisode, on fait la critique de l'Olympus OMD EM10 et on vous parle entre autres de la technique Brenizer. D'ici là, à vos déclencheurs.